vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 77, du bruit, de la fureur et de la littérature. Chers amis, bonjour, bienvenue dans notre émission, vous l'avez bien connu. Une semaine, nous recevons une invitée ou un invité qui nous parle du temps perdu et du jeu du hasard, des gens érudits qui nous permettent de trouver des traces comme ça dans notre vie quotidienne de cette nostalgie que nous pouvons avoir, mais aussi de ce bonheur de se retrouver un petit peu comme ça, un petit peu n'importe où. Et puis, la semaine suivante, je vous lis quelques nouvelles d'un temps perdu, d'un temps passé, d'un temps si lointain, celui du confinement. Et donc, aujourd'hui, je vais vous lire quelques petites nouvelles que j'ai eu le plaisir de rédiger et qui ont été publiées dans un livre qui s'appelle « Le chat du 28, rêve d'une orgie perpétuelle » et que vous pouvez trouver aux éditions Bourblanc qui sont situées à Strasbourg. Voilà, la première nouvelle, je l'ai intitulée « Bruit ». C'était il y a un an. Jour pour jour, Georges mourait. « Vous vous mouchez dans votre coude », nous répétait-il. Et quand il s'était senti un peu mal, son docteur de famille l'avait envoyé faire des examens à l'hôpital, un petit malaise. Bon, réanimation, une semaine de réa, et terminé, sans aucun « ainsi soit-il ». À l'époque, les masques étaient inutiles puisque même la cloune officielle du gouvernement ne savait pas comment les mettre. Et seuls les hospitaliers avaient de quoi se protéger. Attrabile et futile. Deux hommes parurent, habillés en cosmonautes. L'un étudiant en biologie, l'autre en médecine. Ils faisaient partie des volontaires dans les services de l'hôpital. Le couloir de la solidarité était exalté et le chemin de la peur asphalté. Quand on ne connaît personne, personne ne vous connaît, et de novices de bonne volonté, les voilà, alors on dit en bon français « upgradés », hein, donc nommés, combattants de l'adversité. Et donc nos deux étudiants demandent « on fait quoi ?» Allez dans la 113. Ah bon, ok. La chambre 113. Ils y vont. Ah ben, il y a quelqu'un qui dort. On fait quoi? Et l'infirmière lui répond, ben, vous mettez une double housse et vous descendez dans la réserve. C'est le nom pour l'endroit quand la morgue est pleine. Et après, vous désinfectez à fond. On va vous montrer comment faire. Alors, quand on n'a jamais vu de mort, de vraie mort, même en cours d'anatomie, ce n'est pas évident. Le long bruit de la fermeture éclair du sac en plastique rappelle celui, le bruit de la toile de tente des camps scouts. Et il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'étudiant qui, je cite, « chie dans son froc ». Ce n'est pas évident de soulever et de tasser dans cette foutue housse. On a l'impression qu'il vous regarde, le monsieur. L'infirmière s'excuse. « Ah, mais je croyais que vous aviez l'habitude. »« Bah, ce sera plus facile demain. » C'était oui, il y a presque un an, le 11 avril 2020, et aujourd'hui, pour nous, c'était il y a 4 ans. Zip! Deuxième nouvelle, intitulée « Morceau ». Comme un roi d'Angleterre ou même un prince, cette dame est morte à 99 ans, elle avait toute sa tête et une peur qui était restée intacte, celle de revoir la guerre. L'immortelle tante Gretel aimait bien confondre les générations. Elle le faisait délibérément pour tester notre attention. Elle parlait beaucoup en alsacien, en allemand, en biélorusse, en polonais, et aussi en français avec les petits, petits, petits enfants. Mais jamais en russe, qu'elle connaissait bien pourtant. Ses histoires étaient souvent les mêmes, avec des versions toujours différentes. Par exemple, les péripéties de cet ancêtre qui, pour nourrir sa famille, avait volé une vache et avait été condamné à mort. On appelait ça l'Abigea. L'Abigea, c'était le grand-père de son grand-père, celui dont le fils s'était battu dans l'armée de Napoléon, ou plus probablement contre l'empereur. Ses descriptions étaient toujours allègres, par exemple tous les détails du costume blanc immaculé des grognards de la vieille garde, comme si elle y avait été. Une seule fois, son récit fut effaré quand elle évoqua le souvenir de la boue noire sur l'uniforme des soldats russes à Berlin en 1945. Aussi ne descendait-elle jamais à la cave, un lieu d'épouvante. Voilà, pendant cette période du Covid, comment des souvenirs remontaient et comment l'on parlait de façon presque naturelle de la mort. Sa vie entière fut comme un confinement irrémissible. Irrémissible. Une haine farouche qui surgissait au détour d'une trace dans sa mémoire et qui faisait dire à son entourage qu'elle était méchante. C'était une jeune fille, mais elle avait vieilli de 20 ans en moins d'une semaine, quand les Russes sont arrivés à Berlin. Mais elle n'en parlait jamais. Elle avait alors décidé de ne plus lire de romans, de refuser de plonger dans de belles histoires heureuses. Elle n'aurait pour lecture, activité qui lui était aussi indispensable que les vers de Schnaps, que celle des dictionnaires. La taille des gros livres la rassurait. Les mots sans histoire la faisaient rêver. Il lui fallait 4 années de plongée quotidienne pour atteindre la dernière page des 17 volumes, avec les 2 suppléments, hein, compris, du Larousse du XIXe siècle. Une lecture complète dans l'ordre alphabétique, page après page, en immersion totale, comme on entre au couvent, et c'était une retraite qu'elle fit 3 fois dans sa vie. Voilà comment on s'échappe de son passé. On lit un dictionnaire, mais surtout pas une histoire, surtout pas un roman, surtout pas une belle chose qui ferait rêver. Elle aimait donc ce mot qui remontait aux sources de sa famille et aux premières lignes du tome 1, Abigea, l'ancêtre condamné pour vol de bétail. Alors, en droit romain, un mouton, bon, vous voliez un mouton, on vous coupait l'oreille. Un cheval ou un bœuf, c'était la peine de mort. Et elle en tremblait encore. Cependant, Gretel ne tarissait pas d'éloges sur ce héros qui, dans une période de famine, avait été si audacieux pour tenter de sauver sa famille. Et elle racontait cette histoire comme si ça avait été hier ou avant-hier. Et dans la nôtre de période, donc dans la pandémie du coronavirus, avec son cortège d'interdictions et de précautions sanitaires impératives, l'Abigea devint un modèle absolu. Elle porta le masque, mais elle n'eut pas le temps d'être vaccinée. Alors après les funérailles, nous grimpâmes au grenier. C'était son antre, avec ses malles à trésors bondés de vieux journaux, et caché des regards inquisiteurs, sur d'épaisses étagères de bois brut et sous de lourds draps brodés à ses initiales, nous découvrîmes, prête à affronter un futur de terreur, scellé en bloc et durci par l'insipide fuite du temps, muré par l'amertume des tristesses et l'étourdissement des angoisses, narguant la peur comme une garantie éternelle de survie si jamais il revenait, les Russes, si jamais il revenait, nous découvrîmes exactement 113 boîtes pleines de sucre en morceaux. Autre nouvelle, intitulée « Variant Zeus ». Par Jupiter, Zeus était un sacré virus. S'il est, en version grecque, le dernier dieu de la liste alphabétique, il est le premier dans la hiérarchie de l'Olympe. Homère écrivit qu'il lui suffisait d'agiter sa chevelure parfumée et l'Olympe entier en était ébranlé. Il a aussi suffi d'un pangolin myrmécophage de Wuhan qu'il secoue ses écailles de pholidote pour que le monde entier soit ébranlé. Et il a une longue langue visqueuse. Alors aujourd'hui, le Covid-19, c'est comme un dieu universel. Il est honoré et craint de tous. Coronaviseus règne sur le ciel par sa splendeur et ses pouvoirs, et sur les hommes par sa capacité à changer de nom. Jupiter virus chez les Romains. Les orages sont le reflet de ses humeurs et de ses foucades. Son rôle de justicier et son sens de la famille ont assuré sa renommée auprès de tous les habitants de la planète. Comme il est partout, bienfaiteur et sauveur, on craint ses caprices. Et comme il sait tout, pédagogique et préemptoire, on se fie au hasard pour ne point le rencontrer. Zeus a séduit une océanide nommée Métis, la prudence, pour s'introduire chez les hommes. Il avait auparavant drogué Cronos, le seul qui aurait pu contenir ses élans envahisseurs. En quelques mois, Zeus est devenu le maître de tous les dieux. Il gouverne les nuages et lance la foudre. Et même tant les dieux tentent de respecter les gestes barrières, portent des masques et imaginent des vaccins. Mais la puissance de Zeus écrase ces hommes immortels, du plus profond des enfers aux cieux les plus éloignés de la terre. Alors, variant anglais, sud-africain, brésilien ou alsacien, tous provoquent effroi, lâcheté et panique, le virus. Vêtus de l'égide, accompagnés d'un aigle, des soignants lancent des oracles. Zeus perd son rôle d'arbitre suprême. Homère relate qu'il subit nombre d'attaques et de trahisons. Prométhée le trompe en le détroussant du feu. Les Épades sont sauvées. Apollon tue les cyclopes qui forgent ses armes. Le confinement est levé. Tantale lui vole ses secrets. Asclépios révèle la formule du vaccin au laboratoire du monde entier. Sans contrepartie. Tous les dieux sont punis. Le cap des 3 millions de morts est atteint. La guerre de Troie a bien lieu. Chiffre officiel du 12 avril 2021 trouvé sur Google. 136 526 438 cas positifs confirmés. Alors là, on voit que Zeus, il sait compter. Le titan sera-t-il détrôné par ses descendants ? Pour échapper à l'oracle funeste, le dieu qui se métamorphose en pluie d'or dévore ses propres enfants. Désespérée, une jeune mère, la déesse Rhéa, accouche en secret de son sixième nourrisson sur le mont Lycée, et le confie en réanimation aux nymphes qui élèvent au lait de chèvre parfumé de miel. Zeus sort guéri de Rhéa et multiplie les conquêtes amoureuses sur terre et dans le ciel. Il est volage et séducteur. Un masque de travers, une main mal lavée, un éternuement impromptu, et tous les subterfuges de la fatalité lui permettent de duper et de se marier. Métis, Thémis, Dionée, Eurynomée, Mnémosyne, Leto, Déméter, Héra. Les compagnes sont mystérieuses, les enfants innombrables et les apparences trompeuses. Les statues meurent aussi. Où séjourner après la mort ? Hadès accueille les hommes vertueux morts du Covid dans un paradis situé sous les enfers. Le soleil y brille éternellement. La végétation y est luxuriante. Aujourd'hui, le colza est en fleur, les asperges pointent. C'est juste à moins de 10 kilomètres et c'est déjà la campagne. Cela a un très beau nom, monsieur Jupiter. Cela s'appelle les Champs-Élysées. Autre nouvelle, un peu plus tard. Et là, nous venons de faire des parallèles un petit peu amusants, érudits, entre la mythologie et le Covid. Pardon. L'autre nouvelle s'appelle Loin. Léon était parti à la retraite 13 jours avant l'annonce du confinement. Ses préparatifs pour partir en vacances tombaient à l'eau. Léon s'appelle Léon parce que baptisé le jour du 20e anniversaire du Front populaire, Léon Blum. Il y avait aussi l'oncle Léon à Planois qui avait des vaches et qui portait d'immenses draps de foin sur son dos, la tête en avant pour descendre la colline jusqu'à la ferme où l'on passait les grandes vacances dans les années 60. Partir, dès que l'on pourra, en fin du confinement, à la fin des mesures sanitaires et à la fin de la limite des 10 kilomètres, on partira. Il y aura une explosion de départ, partir et partir n'importe où si possible. Encore qu'aujourd'hui, le 10 km de rayon autorisé, cela fait quand même un grand tour de 62,3 km. Donc ça, c'est si on a été bon à l'école et qu'on fait le calcul de la circonférence. Léon en était à sa troisième grande crise, mai-juin 1936, vécue par procuration dans les récits familiaux. Mai-juin 1968, qui reste la grande aventure mythique de son adolescence, et mai-juin 2020-2021, là, maintenant, pendant le Covid. En 1936, l'humanité avait titré « Tout n'est pas possible ». En 1968, on affichait bien plus d'optimisme, l'imagination au pouvoir. Et en 2021, à la sortie de la crise du Covid, on dira « Tous au loin ». L'été 1936, sous les congés, les vacances et la beauté du soleil. L'été 1968, sous les pavés, la plage. L'été 2021, Léon pourra-t-il aller au loin ? Aller loin, c'est d'abord quitter le désespoir. En 1984, ça c'est Orwell, et en 1934, à Mulhouse, un coiffeur au chômage tuait ses deux filles avant de se suicider, avec une lettre sur la table, « Je suis un pauvre veuf, je ne suis pas fou, nous avons trop souffert. » À Strasbourg, les gardes mobiles à cheval ne peuvent contenir, place du Corbeau, une foule de 20 000 personnes qui protestent contre le marasme économique. Il y a eu 150 blessés, le pont maculé de sang. Voilà les faits divers
que l'on se remémorait pendant le Covid. Et Léon dit « Le confinement, c'est comme la grève. Ce qui se passe après est imprévisible. En 1936, on a eu les congés payés. En 1968, on a pris nos désirs pour des réalités. Et en 2021, on aura quoi ?» Sur France Info, à la radio, une pédopsychiatre raconte les suicides d'enfants, parfois de 8 ans, tellement déboussolés par les contraintes que le Covid impose aux familles. En 1936, les parents de Léon sont allés pour la première fois à Gérardmer, en bus. Avec la fédération sportive, ils ont construit un chalet au Schnepfenried pour les fins de randonnée. Les enfants partaient 2 mois en colo, colonie de vacances. On descendait l'île en canoë et en kayak. Et on allait d'une auberge de jeunesse à l'autre en vélo. Où ira Léon quand la pandémie du coronavirus sera finie? Bon, c'est une histoire un petit peu triste, hein, mais cela nous rappelle ce passé du confinement où on ne se racontait pas vraiment des histoires pour trop rigoler. Encore une nouvelle qui s'appelle « Grandir » et « Grandir » écrit ainsi « G-R-A-N-D-I-R-E ». Quand Gérard est sorti des urgences, il a dit qu'il n'y avait pas de sang, mais de la folie. Ses parents pensaient qu'il serait hospitalisé, mais il n'y avait pas de place. La salle d'attente était pleine de jeunes comme lui, beaucoup de filles et des garçons de même pas 10 ans. Alors, personne ne parle, on ne joue pas ensemble hein, dans la salle d'attente de l'hôpital. C'est une cocotte minute, dit une maman, pour excuser sa gamine qui se vautre sur la table. Ah oui, je comprends, ne vous en faites pas. Ben justement, on s'en fait. Depuis qu'à la radio, on a entendu que le suicide des jeunes avait doublé depuis le Covid. Gérard, peut-être pour l'acteur de Des Valseuses ou l'auteur de Je suis le ténébreux, hein, que l'on a retrouvé pendu, hein, Gérard de Nerval. Un peu sale gosse, presque bon élève et champion pour les bêtises dans l'immeuble, il ne dort plus. Il pleure tout le temps et il mange mal. Alors la pédopsychiatre des urgences passe une tête et répond à une maman « Ah, depuis 3 mois, des centaines sont tombées. » Alors, la toubib ne s'écoute pas, elle parle machinalement, elle travaille à la chaîne. Tous dans la salle scrutent son visage et tous les patients, les parents, ils lisent dans ses yeux, mais elle n'a pas le temps. À qui le tour ? Et moi, je pense aux poilus, à l'assaut des tranchées. Ils étaient des milliers et on disait ils étaient tombés, tombés au champ d'honneur. Alors Gérard a condamné son père et son grand-père parce que c'est lui qui les a contaminés. Et ce sont des analyses hein, sanguines qui l'ont prouvé. Ils sont tous les deux en réanimation. Alors vous imaginez le gamin de 10 ans, son père et son grand-père sont en réanimation à cause du Covid et on apprend, il apprend de façon fortuite que c'est à cause de lui. Alors bien sûr, les parents ne font aucune remarque, aucun reproche, mais pendant qu'on cherchait avec des tests, le petit gamin de 10 ans, il a compris, Gérard a compris. Personne dans la famille n'a compris qu'il avait compris. Ce n'est peut-être pas pour cela qu'il a avalé toutes les pilules de l'armoire à pharmacie et les 50 cachets de Xanax de sa maman. Il n'y a plus de judo, il n'y a plus de foot, il n'y a plus de goûter chez les copains. Gérard passe son temps à vérifier l'heure avant le couvre-feu. Il retourne à l'école, l'estomac a été lavé, et on répète la veille au soir à la maison des réponses pour que les copains, quand ils poseront des questions, eh bien, ils sachent quoi répondre. Le matin, il s'est enduit de la tête aux pieds de gel désinfectant. Il a mis un masque dans chaque poche. C'est ce jour-là qu'il s'est mis à bégayer. L'autre grand-mère lui a dit « Allez, envoyez-le-moi, mais c'est impossible, c'est trop loin, c'est trop compliqué. » Et sous la douche, les parents ont vu qu'il s'était mutilé. Mais comment a-t-il fait et quand, alors que nous, les parents, on est toujours là, à côté de lui, puisqu'on est en télétravail. À l'hôpital, l'infirmier, si gentil, qui lui a passé la sonde dans l'estomac, lui a dit « Tu n'as quand même pas envie de mourir ?» Et Gérard, le petit garçon de 10 ans, a répondu « Oui, j'ai envie. » L'infirmier était estomaqué et il a dit ensuite « Il faut les porter à bout de bras. » Alors, à la télévision, on a parlé d'un chèque psy pour aller consulter un spécialiste du stress. Mais comment faire pour l'obtenir ? Tous les médecins qui ont été contactés par les parents de Gérard disent « On est complet, on est complet. » Gérard a eu son anniversaire. Personne n'a oublié. Le gâteau, la tata et les grands-mères au téléphone. Mais un anniversaire, quand on a 10 ans, sans la fête avec les copains, ça compte pour du beurre. Le Covid, c'est comme si on faisait du surplace. On n'avance pas. Gérard écoute le Premier ministre faire des annonces qui vont encore changer la vie. « Mais c'est pour son bien, pour le bien de tous, » dit maman. Et l'enfant, il répond, « Castex, il ne sait pas que dans la population, il n'y a pas que des adultes. » Il a fait une corde avec son drap et il l'a accroché au lustre de sa chambre. Il a grimpé sur deux chaises, peut-être un peu comme au cinéma, mais c'était pour de bon. Mais ça n'a pas marché, parce que c'est pas facile de réussir. Et peut-être ne voulait-il pas vraiment réussir, ont pensé ses parents. Sur son bureau, avant de se pendre, il avait laissé une lettre, très courte, dans une enveloppe, comme un secret. Et il avait écrit « Je veux grandir, G-R-A-N-D-I-R-E ». C'était l'épisode numéro 77 de « Vous l'avez bien connu » du bruit, de la fureur et de la littérature. « Je veux grandir », disaient les petits-enfants pendant le confinement. La semaine prochaine, nous aurons encore un invité pour nous parler du temps perdu et du jeu du hasard. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. À la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin.